Seigneur, notre foi repose sur ta parole, sur ce que tu nous as dit, sur ce que tu nous as annoncé. Et c'est pour cela que nous voulons y prêter une attention particulière. Je te prie que tu ouvres nos cœurs pour que nous puissions t'entendre à partir de ce passage que nous lisons aujourd'hui. Et je te prie également pour nos enfants dans leurs différentes classes d'enseignement, qu'ils puissent aussi, à leur âge, avec leur compréhension, apprendre à mieux te connaître. Ouvre nos cœurs à tous, Seigneur. Sois avec tes serviteurs qui prennent la parole pour parler de toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Creep, par le groupe Radiohead, en 1993. I'm a creep. Je suis un minable, un raté. Qu'est-ce que je fabrique ici? Je ne suis pas de ce monde. Voilà ce que chante le chanteur de ce groupe. Cette chanson, c'est un cri de désespoir de quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur dans ce monde. Et j'ai vu dans le texte que nous allons lire aujourd'hui une réponse à ce cri qui peut être partagée par d'autres. Lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Nous reprenons l'étude de cette lettre de Paul aux chrétiens de l'église de Corinthe. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26, et nous lirons jusqu'au verset 31. Il est écrit : Regardez, mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour vous, pour nous, sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption, afin, comme il est écrit, que le fier afin, comme il est écrit, que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. Jusqu'ici, notre lecture. Je vois dans ce passage une réponse à ce cri de désespoir. Peut-être vous vous sentez nul, peut-être vous ne savez pas ce que vous faites là, mais ce passage parle. Vous servez à quelque chose, vous avez de la valeur. Ce passage se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, la première lettre que nous avons dans la Bible qu'il leur a envoyée. Les Corinthiens, vous commencez à les connaître puisque nous menons l'étude de ce livre depuis quelques mois maintenant. Et là, dans ce passage, on apprend que les Corinthiens, c'est pas des stars. Au verset 26, il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. La tournure dit qu'il y en a certainement quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas une église brillante, une église qui attire. Paul s'adresse à ceux qui, parmi eux, ne sont pas à la hauteur, et il va les réconforter. Il va leur dire, vous avez une place. Vous avez une place, Dieu vous a choisi. Et il vous a choisi pour une raison. La raison, on la trouve au verset 28. Dieu a choisi ce qui est petit, ce qui n'est pas reconnu, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant lui. Dieu a un plan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, nous avons parlé d'un psaume, le psaume 50, et nous avions vu que parfois, Dieu garde le silence. Il laisse l'homme aller selon son idée, un peu comme des parents vont laisser leur enfant aller au bout de son idée pour voir si la direction qu'il prend, c'est vraiment une bêtise qu'il veut faire ou s'il va s'arrêter tout seul. Dieu nous laisse aller au bout de notre idée pour voir là où nous allons. Non pas qu'il ne le sache pas, mais pour que nous nous rendions compte de ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Mais Dieu ne garde pas le silence tout le temps. Et au bout d'un moment, Dieu vient demander des comptes. Et Dieu juge. Il demandera des comptes aux orgueilleux, aux fiers, à ceux qui pensent qu'ils n'ont besoin de personne, à ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de toute autorité, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. À Corinthe, dans la ville de Corinthe, et plus généralement en Grèce, c'est une des motivations, une des valeurs de ces hommes que de vouloir s'élever, de vouloir être digne de louange, de vouloir être respectable. L'humilité n'est pas une valeur. Au contraire, Aristote écrit que les grands hommes sont ceux qui agissent poussés par le sentiment de l'honneur et le désir d'éviter le blâme, source de honte. Voilà ce qui motive les Grecs de l'époque. Et vous savez ce que ça donne d'être poussé par le sens de l'honneur. Ça donne l'envie de briller, même si c'est au détriment des autres, de se défausser lorsqu'il y a un problème pour que ça retombe sur l'autre et non pas sur moi. Voilà le monde dans lequel ils vivent. Voilà l'ambiance dans laquelle ils vivent. Mais je le disais, Dieu est Dieu, au-dessus de tout. Et l'homme, c'est sa créature. Dieu l'a doté de grandes capacités. Il est capable de faire beaucoup de choses. Mais l'orgueilleux qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu insulte Dieu à penser qu'il est le seul maître, qu'il est suffisamment fort, qu'il a suffisamment de ressources en lui-même pour faire ce qu'il a à faire, pour faire ce qui lui plaît. Et Dieu viendra juger, demander des comptes à ceux qui sont forts. C'est lui qui donne toutes les capacités à chacun. Et à certains, il en a donné beaucoup. Mais avec ses capacités, il donne aussi des responsabilités dans ce monde. Et il viendra demander des comptes sur qu'est-ce qui a été fait avec ses responsabilités. Et à ceux qui se sont trompés, qui n'ont pas reconnu Dieu, qui n'ont pas reconnu à quoi ils étaient appelés, il les reprendra. Et il leur montrera que c'était possible de le suivre, puisque d'autres, plus simples, moins équipés qu'eux, moins intelligents, moins puissants, moins riches, moins doués, ces plus petits l'ont entendu et ont accepté son message. À ceux qui se sentent nuls à Corinthe, Paul ne dit pas « mais non, vous n'êtes pas nuls ». Il regarde les choses en face, mais il leur dit « réjouissez-vous, vous faites partie du plan de Dieu qui vous a choisi ». Maintenant, pour être honnête, en lisant ce texte, je ne pense pas qu'il n'y ait à Corinthe que des personnes qui se sentent nulles. Quand je vois la virulence des propos de Paul que nous avons lus, je pense qu'il y a aussi des gens qui auraient bien voulu être importants, qui pensent être importants et qui cherchent à être importants. Et si vous regardez au verset 1, le premier mot de ce que je vous ai lu, alors je ne sais pas comment c'est dans votre traduction, mais dans la mienne, ce premier mot c'est « regardez ». Regardez, c'est une interprétation. Ouvrez les yeux. Vous vous croyez bien ? Ouvrez les yeux. À ceux qui se croient bien aux yeux du monde dans lesquels ils du monde qui les environne, eh bien, il va appliquer les critères du monde. Il leur propose d'appliquer les critères du monde pour juger eux-mêmes s'ils sont bien ou non. Je trouve que ce que dit Paul, c'est assez violent pour ces personnes. Quels sont les critères du monde ? Le monde admire ceux qui sont sages, ceux qui sont puissants, ceux qui sont nobles. Les sages, c'est l'élite intellectuelle. Et elle est très en vogue à cette époque dans le monde grec et à Corinthe en particulier. Pour ceux qui étaient avec nous quand on a étudié le début du chapitre 1, on a vu cette recherche de la sagesse qui était présente jusque dans l'Église, qui était si importante. Les sages, ce sont ceux qui philosophent, ceux qui font de beaux discours et qui rassemblent autour d'eux des disciples qui vont choisir « moi je suis de cette école, moi je pense comme lui ». Parmi ceux qui sont grands, il y a aussi les puissants. Alors les puissants, ça peut être ceux qui ont une puissance en politique, ceux qui ont de l'autorité qui leur a été confiée par l'Empire romain, ceux qui ont des responsabilités, du pouvoir, qui décident des choses. Dans une ville commerçante comme Corinthe, les puissants sont aussi les riches, ceux qui ont de l'argent pour décider de la vie économique de la ville, décider de qui embaucher, de qui faire vivre. Eux aussi détiennent du pouvoir. Et puis, troisième type de personne, de qualité que cite Paul, c'est la noblesse, les nobles, les personnes bien nées, ceux qui sont issus d'une famille qui compte dans la ville, ceux qui ont des connaissances, ceux qui ont le bras long. Et Paul dit à l'Église, mais regardez, si on demande dans la rue à Corinthe, si vous, à l'Église, vous êtes important, honnêtement, qu'est-ce qu'ils vont répondre ? Alors, quelques-uns, peut-être, oui, sont importants, mais très peu. C'est ce que Paul dit au verset 1. Et pour les autres, les qualificatifs qu'il emploie au verset 27 et 28 sont peu reluisants. Des fous, des faibles, des vils, qu'on méprise. Ce passage arrive dans la suite du raisonnement de Paul. Souvenez-vous de l'église de Corinthe, une église qui connaît des divisions. Dans cette église, il y a des partis qui se forment. Certains sont pour un tel, d'autres pour tel autre. Et les gens se rangent derrière tel ou tel qui a une pensée qui leur semble brillante et choisissent leur camp. Et dans tout ce chapitre 1, Paul leur démontre qu'ils font fausse route. Il leur a déjà dit que Christ, Jésus-Christ, est unique. Il ne peut être divisé. Et donc, on ne peut pas être enfant de Christ et en même temps divisé. Ensuite, il leur a surtout dit que cette recherche de sagesse, d'être celui qui avait raison, elle est vaine. La foi, au contraire, la foi qu'il leur est demandée, c'est le renoncement à l'intelligence. C'est accepter la main tendue de Jésus-Christ. Et ce n'est pas découvrir par des raisonnements ce qui serait caché dans la parole de Dieu et qui nous permettrait de nous révéler Dieu d'une façon plus grande. Accepter Jésus, c'est tout simple. Et ce n'est pas très reluisant intellectuellement. Et là, dans ce passage, il rajoute une couche. À ceux qui se battent pour exister à Corinthe, pour exister dans cette ville, il leur dit, vous vous trompez de combat. Vous mettez vos forces à un endroit qui n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine parce que vous avez déjà tout. Vous avez déjà tout en Jésus-Christ. Si vous l'avez accepté, vous êtes déjà quelqu'un. Inutile de chercher ailleurs. Inutile de chercher la sagesse, la puissance, la noblesse. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il est écrit au verset 30. Or, c'est grâce à lui, à Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration, rédemption. Sagesse, justice, consécration, rédemption. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et du coup, si nous recherchons un sujet de fierté, ce n'est pas qui nous sommes devenus, mais c'est Jésus-Christ qui nous a fait devenir quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Alors, cessez. Cessez de vous comporter comme le monde. Cessez de vous diviser, de créer des écoles de pensée au sein de votre Église, de chercher à être quelqu'un d'important. Vous avez tout en Jésus-Christ. Vous êtes unis. Vous avez en lui plus que la sagesse. Et vous êtes choisis par Dieu. Voilà donc ce que Paul dit aux Corinthiens. Et nous, qu'est-ce qu'il nous dit à travers ce passage? Qu'est-ce qu'il nous dit par l'étude de cette lettre? J'ai retenu deux choses, et je pense que la première chose, c'est une mise en garde assez générale, mais importante, une mise en garde de ne pas adapter l'Évangile au monde dans lequel nous vivons. À Corinthe, on exalte les forts, les sages, les puissants, les nobles. Alors, Les chrétiens de l'église de Corinthe vont essayer de vivre un évangile adapté à la société dans laquelle ils vivent. Ils trouvent dans la révélation biblique des moyens d'exister par la sagesse et de devenir importants. Mais ce n'est pas possible d'être chrétien et de continuer dans cette voie d'ascension sociale, dans cette voie d'essayer à exister. Quand je lis cette épître de Paul aux Corinthiens, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de points communs avec notre époque. On vit dans une société, ici en France, au XXIe siècle, qui, sans promouvoir le christianisme, nous tolère quand même largement et prête à nous faire une place si nous nous fondons dans le moule. Attention. Nous devons toujours relire l'Évangile pour mieux le comprendre. Mais nous devons comprendre l'Évangile dans notre société, là où nous vivons, et nous ne devons pas changer l'Évangile pour coller à notre société. Et c'est là un avertissement que je relève dans ce passage. Un avertissement face à cette tentation de vouloir adapter l'Évangile au grand sujet de notre temps, aux modes de notre temps. On peut penser assez automatiquement aux grandes questions éthiques, la position de l'Église par rapport à l'homosexualité, ou même le combat pour le mariage plutôt que l'union libre. Mais je crois qu'il y a d'autres sujets plus profonds sur lesquels nous pourrions être interpellés. Est-il encore nécessaire, au XXIe siècle, d'aider les pauvres? Aujourd'hui, on est dépassé par la mondialisation et on a accès aux pauvres du monde entier. Ils sont trop nombreux pour nous. On ne peut pas prendre soin de tous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend soin de personne? Pourtant, aider les pauvres est un devoir chrétien. Avoir le souci des autres. Dans une société individualiste qui nous encourage à faire respecter nos droits. Nous avons le droit, fais respecter tes droits. À poser des limites, à choisir ce que nous faisons, à rester libre, à être libre. Comment vivre l'Évangile qui nous appelle à nous donner? À donner notre vie pour nos amis, à faire passer les autres avant nous. Comment maintenir l'Évangile tel quel dans notre temps? C'est un défi que nous avons, que de rester toujours fidèles. Un de mes profs à la faculté de théologie nous disait ceci pour nous expliquer pourquoi nous devions faire de la théologie, pourquoi nous devions toujours étudier la Bible. L'Évangile ne change pas, mais le monde et le diable trouvent toujours de nouvelles façons d'attaquer l'Évangile. Et c'est pour ça que nous devons toujours le lire, pour savoir toujours comment répondre. Je vous avais dit que je retenais deux choses de ce passage. La première, de travailler cette fidélité à l'Évangile malgré le monde qui nous entoure et qui nous tend les bras. La deuxième, elle est plus directe par rapport au texte que nous avons lu, c'est de faire attention à ne pas chercher à être important. Vous vous souvenez de la chanson que nous avons écoutée au début? Aujourd'hui encore, on rêve d'être quelqu'un qui compte, quelqu'un qu'on remarque, quelqu'un qui existe dans la société, quelqu'un qui existe dans l'Église. Mais on n'est personne. Ou alors, pas grand-chose. Sagesse, richesse, noblesse. Ça a toujours été recherché. Et ce sera toujours recherché. 6 siècles avant ce qu'écrit Paul, le prophète Jérémie écrivait « L'Éternel dit ceci, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agit avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là des choses qui me font plaisir. » L'Éternel le déclare. 6 siècles avant, la même chose. Sagesse, puissance, noblesse. Et aujourd'hui, 20 siècles plus tard, je crois que ça n'a pas trop changé. Sagesse, être une voix qui compte dans la société. Une voix influente que les autres suivent. Ça compte. Ça compte aussi la puissance, être celui qui va décider, responsable politique, responsable d'une société avec le pouvoir d'embaucher, de créer des marchés, de passer des commandes, ça compte. La noblesse, en France, on va dire que c'est moins mis en avant depuis la Révolution, mais on va courir après la célébrité, même avoir son quart d'heure de gloire, comme dit Andy Warhol. Alors, suivons le conseil de Paul. Regardons. Luc nous a proposé de nous regarder ce matin. Regardons-nous. Peut-être que nous sommes un peu plus privilégiés que l'Église de Corinthe. Peut-être qu'il y a parmi nous un peu plus de gens importants. Un peu plus de sages, selon la chair, de puissants de Corinthe. Admettons. Mais s'il y en a quelques-uns, il n'y en a pas des masses. On n'est pas vraiment mieux que Corinthe. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup parmi nous de personnes qui comptent dans la société, de personnes que on va écouter avec attention, dont on guette la parole, dont on suit les publications sur Internet. Des personnes qui ont le pouvoir de changer la condition de leurs concitoyens, que ce soit un pouvoir politique ou économique. De personnes qu'on reconnaît dans la rue, des personnes qui ont la renommée nécessaire pour qui leur permet de faire ce qu'ils veulent. Et je crois que c'est mieux ainsi. Parce que tout ceci ne vaut pas grand-chose. Paul le rappelle. Tous ces avantages, tous ces honneurs, ils sont appelés à disparaître. Le jour où Jésus reviendra, qu'est-ce qui restera? Jésus recommandait « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Amassez plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Je pense qu'on peut étendre cette invitation, cette recommandation de notre Seigneur. Ne recherchez pas les honneurs sur terre où ils sont appelés à disparaître. Ne dit-on pas des cimetières qu'ils sont remplis de gens indispensables? Tous ces honneurs finissent par disparaître. Recherchez plutôt les honneurs dans le ciel. Et quels sont-ils? Jésus a dit, si vous voulez être le plus grand, soyez le plus petit. Alors le chemin, c'est celui que montre Paul. Mettons notre fierté en Jésus-Christ. Soyons fiers de ce qu'il a accompli pour nous, de comment il nous a déclarés justes aux yeux de Dieu, juste par notre seule foi en lui, uniquement parce que nous croyons en lui. Voilà ce que je retiens de ce passage, de ce que Paul écrit aux Corinthiens au 1er siècle. Nous vivons, nous aussi, dans un monde qui nous tolère, et nous sommes tentés de nous acclimater, de poser nos valises et de nous lancer dans cette course à la recherche des honneurs avec tout le monde. Ne cédons pas à cela. Nous avons tout en Jésus-Christ. Acceptons d'être petits. Acceptons de ne pas être considérés dans ce monde, parce qu'on ne nous prête pas d'importance. Et nous sommes alors dans le plan de Dieu. Nous sommes ceux qu'il s'est choisis. Ceux qu'il s'est choisis pour réduire à rien les orgueilleux qui pensent ne pas avoir besoin de lui. Et pour manifester sa gloire le jour où il reviendra. À lui, toute la gloire. Amen.